Évangile selon Jean. Introduction. L'Évangile selon Jean est avant tout celui de la révélation de la gloire du Fils. Les évangiles synoptiques présentent d'autres gloires du Seigneur. Matthieu expose sa gloire officielle comme Messie. Marc décrit la gloire de son humiliation comme serviteur. Luc parle de sa gloire morale comme Fils de l'homme. Mais Jean a le privilège élevé de placer devant nous sa gloire personnelle comme Fils. Or, la présentation de Christ comme une personne divine implique la révélation de chacune des personnes divines. L'Évangile commence par l'énumération des gloires du Fils. Puis nous trouvons la révélation du cœur du Père, chapitre 1, verset 18, de la main du Père, chapitre 5, verset 17, et de la maison du Père. Chapitre 14, versets 1 à 3. Dans les derniers chapitres, le Saint-Esprit nous est présenté d'une manière très complète. De plus, cet évangile introduit un homme entièrement nouveau, selon un ordre nouveau. Le Seigneur se présente lui-même comme le Fils de l'homme qui est dans le ciel, chapitre 3, verset 13, comme le Fils de l'homme qui vient, ou qui est descendu, du ciel, chapitre 6, versets 33 et 50, et comme le Fils de l'homme qui va monter où il était auparavant. Chapitre 6, verset 62. Ainsi, dans l'Évangile selon Jean, Christ nous est présenté sous un double aspect. D'abord comme le Fils unique qui révèle le Père, puis comme le Fils de l'homme qui présente un homme d'un ordre nouveau, un homme qui marche sur la terre et vit dans le ciel. Différentes figures sont employées pour placer devant nous ces gloires variées de Christ. Au chapitre 2, il est le temple dans lequel habite la gloire de Dieu. Au chapitre 6, il est le véritable pain qui vient du ciel pour satisfaire les besoins de l'homme. Au chapitre 8 et 9, il est la lumière du monde pour tirer les hommes hors des ténèbres. Au chapitre 10, il est le berger qui fait sortir ses brebis de l'ancienne bergerie juive pour les ajouter au nouveau troupeau chrétien. Au chapitre 11, il est la résurrection et la vie, afin de délivrer les hommes de la mort. Au chapitre 12, il est le grain de blé qui meurt pour assurer une semence à sa ressemblance. Au chapitre 15, il est le vrai cep, afin de rendre ses disciples capables de porter du fruit pour le Père. Le grand but de l'Évangile étant de présenter la gloire du Fils de Dieu comme personne divine, on comprendra facilement pourquoi on n'y trouve pas de généalogie, ni le récit de la naissance et des premières années du Seigneur. Ces détails, si précieux à la fois, merveilleux et nécessaires à leur place, ne seraient pas en harmonie avec un évangile qui expose la gloire de sa personne comme Fils. En tant que personne divine, il est au-dessus de toute généalogie, de même que, comme serviteur dans l'évangile selon Marc, il prend une place excluant le besoin d'une généalogie. De plus, dans la présentation de la parole devenue chair, nous ne trouvons aucun détail qui relie Christ à la terre et à la nation d'Israël. Le propos de cet évangile n'est pas de montrer l'accomplissement des promesses faites dans le passé, d'annoncer l'établissement du royaume dans l'avenir, ou de nous instruire quant à la forme qu'il revêt actuellement. Rappelons une fois encore que ces vérités sont nécessaires et précieuses à leur place, mais elles n'entrent pas dans le grand but de Jean, qui est de présenter la gloire du Fils de Dieu. La venue du Fils de Dieu et la révélation qui s'ensuit des personnes divines et d'un homme selon un nouvel ordre impliquent la mise de côté de l'ancien ordre judaïque et l'introduction du christianisme. Dès le début de l'Évangile, tant la nation d'Israël que le monde en général sont vus comme ayant complètement failli à leurs responsabilités et comme mis de côté par le jugement afin d'introduire le christianisme. En outre, l'Évangile présente le christianisme selon la pensée de Dieu et non pas selon les corruptions de la chrétienté. Souvenons-nous, en effet, que l'Évangile a probablement été écrit à une date tardive, quand la ruine annoncée par l'apôtre Paul avait déjà frappé la profession chrétienne. Ainsi, dans cet évangile, nous sommes élevés au-dessus du monde et sortis du judaïsme et de la chrétienté corrompue pour découvrir la bénédiction du christianisme selon la pensée de Dieu, fondée sur la personne du Fils de Dieu. Ayant son fondement sur la personne de Christ, le christianisme doit nécessairement tirer son caractère de Christ. Tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Chapitre après chapitre, nous voyons la mise de côté de l'ancien ordre et l'introduction de ce qui est entièrement nouveau. Au chapitre 1, la loi donnée par Moïse recule devant la grâce et la vérité qui vinrent par Jésus-Christ. Au chapitre 2, le temple à Jérusalem est mis de côté par le temple de son corps. Au chapitre 3, les choses terrestres s'effacent devant les choses célestes. Au chapitre 4, l'eau naturelle du puits est remplacée par la fontaine de l'eau de la vie. Au chapitre 5, le réservoir et l'activité providentielle de l'ange sont mis de côté par la voix toute puissante du Fils de Dieu. Au chapitre 6, le pain naturel fait place au véritable pain qui descend du ciel. Dans les chapitres 8 et 9, les ténèbres sont dissipées par la lumière. Au chapitre 10, la bergerie juive est remplacée par le troupeau chrétien. Au chapitre 11, la mort est mise de côté par la vie. Il nous est ainsi accordé de voir les choses anciennes passer et toutes choses être faites nouvelles. Le temps fait place à l'éternité, les choses terrestres aux choses célestes. En pensée, nous sommes transportés dans l'éternité passée, quand le temps n'était pas. En esprit, nous sommes conduits au-delà des limites de la terre pour goûter les joies de la maison du Père. Lorsque tout ce qui a été confié aux mains des hommes a failli, quelle part bénie de considérer cet évangile et d'avoir nos âmes occupées par les personnes divines en qui il ne peut y avoir aucune défaillance, d'être introduit dans le propos de Dieu que la ruine ne saurait toucher et transporté dans des scènes où les manquements de l'homme n'entreront jamais. En lisant cet évangile, nous sommes dès le début en contact avec des choses éternelles et des scènes célestes et en compagnie de personnes divines. Et néanmoins, nous pouvons nous sentir à l'aise dans une telle compagnie, sans crainte, car cette personne glorieuse, le Fils éternel, s'est approchée de nous au point de pouvoir s'asseoir à côté d'une pécheresse solitaire à un puits et amener un disciple à se reposer sur sa poitrine. Il a demeuré au milieu de nous d'une façon si réelle qu'il a pu se rendre redevable à une femme d'une gorgée d'eau, se baisser pour laver les pieds de ses disciples, et, dans une autre occasion encore, leur préparer un feu afin qu'ils se réchauffent et un repas pour qu'ils aient de quoi manger. Chapitre 1, versets 1 à 18, la parole éternelle. La gloire de la personne de Christ, comme la parole éternelle, est le grand thème des premiers versets de l'Évangile selon Jean. Nous sommes d'abord transportés en pensée dans l'éternité pour découvrir sa gloire comme personne divine, puis dans le temps, sa gloire en tant que créateur est placée devant nous. Enfin, la parole est présentée comme devenant chair, nous révélant sa gloire comme le Fils éternel en relation avec le Père. Versets 1 à 13. Les gloires de la personne de Christ. Citation de l'Écriture. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Fin de citation. L'Évangile commence par la déclaration sublime « Au commencement était la parole ». Tout de suite, nous sommes transportés en pensée dans l'éternité passée, avant que le temps commence ou que la création existe, et nous apprenons que la personne glorieuse, appelée la parole, n'a pas eu de commencement. Au commencement de tout ce qui a eu un commencement, la parole était, non pas commença. L'expression « au commencement était » est l'expression formelle que la parole n'a pas eu de commencement. Pensée de Jean Darby. D'emblée, il nous est dit que la parole est une personne éternelle. Étant la parole, cette personne bénie est celui qui révèle Dieu, la personne dans la déité qui, en elle-même, comme aussi dans ses actes et dans ce qu'elle est devenue, est l'expression de Dieu et de ses pensées. Nous lisons encore que la parole était auprès de Dieu. Non seulement la parole est une personne éternelle, elle est aussi une personne distincte dans la déité. Outre la distinction des personnes, le « auprès d'eux » dénote encore l'intercommunion entre les personnes de la déité. Puis il est dit que la parole était Dieu. La première déclaration, selon laquelle la parole est une parole éternelle, impliquait qu'il doit être une personne divine. Mais, dans un sujet qui touche à la gloire de sa personne, nous ne sommes pas laissés à une déduction, aussi correcte soit-elle. Il est dit nettement que la parole était Dieu, une personne divine. Enfin, nous apprenons que la parole était au commencement auprès de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple répétition du fait déjà établi qu'il était une personne distincte auprès de Dieu. Ici, nous trouverons la vérité supplémentaire qu'il était éternellement une personne distincte. Ainsi, l'Esprit de Dieu défend avec soin la gloire du Fils contre ceux qui admettraient qu'il est une personne distincte et qui pourtant soutiendraient qu'il y a eu un moment où il a commencé à avoir une existence personnelle distincte. Tant le Seigneur, se référant au commencement de son ministère, que Jean, parlant du début du christianisme, emploie l'expression « au commencement ». Ici, quant à ce qui n'a pas de commencement, nous trouvons deux fois l'expression « au commencement ». Remarquons ensuite qu'il est dit « la parole était auprès de Dieu », non pas du Père. La parole et Dieu sont corrélatifs, de même que le Fils et le Père. L'appellation « Dieu » comprend non seulement le Père, mais aussi le Saint-Esprit et le Fils. La parole et Dieu parlent de la nature des personnes divines. Le Père et le Fils impliquent des relations entre des personnes divines. Le grand but de ces versets est d'établir la gloire de Christ en tant que personne divine dans sa nature. Dans ces premiers versets, en quelques mots très clairs, le Saint-Esprit a présenté la gloire divine du Seigneur. La parole est une personne éternelle, une personne distincte dans la déité, une personne divine et une personne éternellement distincte. Tout le merveilleux déploiement de choses célestes placées devant nous dans cet évangile est fondé sur la gloire de la personne de Christ. Mettre en doute la divinité du Fils revient à saper le fondement sur lequel repose toute bénédiction pour l'homme. Peu importe les systèmes religieux élaborés que construisent les hommes ou leurs prétentions élevées d'honorer le nom de Christ, s'ils ne bâtissent pas sur ce fondement, tout sera ruiné. Après la déclaration de la gloire de la parole comme personne divine, nous passons de l'éternité dans le temps et découvrons les deux grands moyens au travers desquels Dieu a été révélé par la parole. Premièrement, la création, verset 3, et secondement, l'incarnation, verset 14. Ainsi, nous apprenons ici que toutes choses furent faites par elle, la parole. Cette affirmation positive est soulignée par la constatation négative que, sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Toutes choses, grandes et petites, animées et inanimées, spirituelles et matérielles, tout ce qui existe a reçu existence par la parole. La tournure même de la phrase exclut nécessairement les personnes divines, dont on peut dire qu'elles ont l'existence, mais non pas qu'elles ont reçu existence. Si la création existe, c'est non seulement pour prouver qu'il y a un créateur, mais pour exprimer, dans sa mesure, le créateur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour en proclame la parole à l'autre jour, et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Psaume 19, versets 1 et 2, Romains 1, verset 20. Si le verset 3 parle de ce qui a reçu l'existence par la parole, le verset 4 nous dit ce qui est dans la parole. En elle était la vie. Avec cette affirmation, nous passons de la relation de la parole avec l'univers créé tout entier à sa relation avec l'humanité. Ainsi, la vie dont il est parlé peut difficilement être la vie naturelle de la création. Assurément, comme créateur, la parole est la source de la vie naturelle qui, lorsqu'elle est donnée, soit aux plantes, soit aux animaux, peut se propager. Mais cette vie est plutôt la vie spirituelle qui devient la lumière des hommes ayant déjà la vie naturelle. La vie peut être communiquée à autrui, mais elle ne l'a jamais été à la parole. En elle était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Le Seigneur peut dire « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. La vie dans la parole était la révélation parfaite du Dieu invisible à l'homme. La lumière de la nature ne révélera pas le cœur de Dieu. La lumière de la raison ne peut pas trouver Dieu par ses recherches. Seule la lumière de la vie, dans la parole devenue chair, peut révéler Dieu. L'homme est déchu. Si donc la lumière brille devant les hommes, c'est dans une scène de ténèbres ou d'ignorance de Dieu. En outre, nous apprenons que les ténèbres ne l'ont pas comprise. Cela signifie que les ténèbres spirituelles ne sont pas seulement ignorance ou absence de lumière, elles sont opposition à la lumière. La lumière naturelle devrait bannir les ténèbres environnantes. Mais, si l'homme est laissé à lui-même, la lumière spirituelle ne dissipera pas ces ténèbres spirituelles. La lumière de la vie de la parole met en évidence l'incapacité morale de l'homme, comme plus tard l'amour de sa vie manifeste la haine de l'homme. Dans les premiers versets, nous avons considéré la gloire de la personne en relation avec Dieu, puis avec la création, et enfin avec l'humanité. Les versets qui suivent montrent comment Dieu a présenté la lumière à l'homme dans ce monde. Non seulement Dieu donne la lumière, mais il envoie un précurseur afin d'attirer l'attention de l'homme sur la lumière. Nous ne trouvons aucun détail concernant le lien de Jean le Baptiseur avec les Juifs ou les choses terrestres. Il est vu ici comme envoyé de Dieu et comme témoin de ce qui est entièrement nouveau. La lumière. Dans d'autres évangiles, Jean rend témoignage du roi et de son royaume pour Israël repentant. Ici, il parle de la lumière pour tous les hommes. Toutefois, si Dieu envoie le précurseur, il veille soigneusement sur la gloire de Christ. Malgré la grandeur de Jean, il n'y en a qu'un seul qui est lumière. Jean était certes la lampe ardente et brillante, Chapitre 5, verset 35. Mais la parole était la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière avait un double effet. Elle démasquait l'homme, mais révélait Dieu. Assurément, le Seigneur a passé de lieu en lieu faisant du bien. Mais le motif de tout ce qu'il accomplissait était de faire connaître Dieu. Il n'ouvrait pas simplement les yeux aveugles pour guérir la cécité, mais pour faire connaître l'amour de Dieu en relation avec les besoins de l'homme. La lumière est la révélation de Dieu en amour selon la pleine vérité de la condition de l'homme et de la sainteté de Dieu. Nous trouvons ensuite l'effet produit par la lumière sur l'homme quand il est laissé à lui-même. Le monde ne l'a pas connu, et les siens, les Juifs, ne l'ont pas reçu. La lumière révèle que l'homme est non seulement totalement insensible à ce qui est bon et parfait, mais absolument opposé à celui en qui toute cette bonté est manifestée. La condition de l'homme abandonné à lui-même est désespérée. Dans sa grâce souveraine, Dieu ne laisse pas l'homme entièrement à lui-même. Il opère en grâce dans l'homme, avec pour conséquence que certains reçoivent Christ. Ils croient en son nom. Et à de tels, il donne le droit de devenir les enfants de Dieu. Il constitue une nouvelle race, non par descendance naturelle, de sang, ni par leurs propres efforts, la volonté de la chair, ni par la volonté d'autrui, la volonté de l'homme, mais comme tirant une vie nouvelle de Dieu. Versets 14 à 18, l'incarnation. Citation de l'Écriture. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car, de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Fin de citation. Les 13 premiers versets exposent les gloires de la personne de Christ. Il est la parole, une personne éternelle, distincte et divine dans la déité. Il est le créateur de toutes choses, celui en qui est la vie et la lumière à tout homme. Maintenant, nous apprenons comment cette personne glorieuse est venue dans ce monde pour apporter la lumière de la vie aux hommes. Celui qui, au commencement, était la parole, devient chair. Nous avons vu qui il est personnellement, qui il était dans l'éternité. Maintenant, nous lisons ce qu'il est devenu dans le temps. Il n'est pas dit qu'il est devenu la parole par l'incarnation, mais que la parole devint chair. Cet événement extraordinaire, l'incarnation de la parole éternelle, nous incite à attendre des résultats immenses et bénis. Trois des effets les plus remarquables de l'incarnation sont placés devant nous dans ces versets. Premièrement, la révélation des relations éternelles entre les personnes divines. Deuxièmement, l'attitude de Dieu envers l'homme. Troisièmement, la révélation de Dieu dans sa plénitude. Les relations éternelles entre les personnes divines. La parole étant devenue chair, l'apôtre peut dire « Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. » La gloire qu'ils ont contemplée ne provenait pas de l'humanité qu'il avait prise, mais de sa relation dans la déité. Sa gloire était une gloire unique, celle d'un Fils unique, une relation goûtée dans la communion avec Dieu comme Père. Ainsi, en même temps que la réalité de son humanité est établie, la gloire de sa personne est soigneusement sauvegardée. L'attitude de Dieu envers l'homme. La parole étant devenue chair, nous apprenons aussitôt ce que le cœur de Dieu recèle à l'égard de l'homme. Celui qui est devenu chair a demeuré au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Il est venu dans un caractère parfaitement adapté à l'homme. Il est venu non pas pour demander quelque chose de l'homme, comme dans la loi, mais en tant que donateur, pour apporter en grâce la bénédiction à des êtres indignes. De plus, la pleine vérité est venue avec Christ. Tout ce que Moïse et les prophètes avaient affirmé était vrai, mais ce n'était pas la pleine vérité. La loi me déclare ce que je devrais être, mais elle ne me dit pas ce que je suis. Christ a montré non pas ce que les choses devraient être, mais ce qu'elles sont. Christ me dit la vérité sur toute chose, mauvaise ou bonne. Pensée de Jean Darby. Le témoignage de Jean le Baptiseur à cette glorieuse personne venue en chair est répété. celui qui est plein de grâce et de vérité, prend une place beaucoup plus grande dans le temps, de même qu'il existait avant Jean dans l'éternité. En outre, la parole devenue chair et demeurant au milieu de nous ne manifeste pas seulement la plénitude de grâce qui était en Christ, mais, dit l'apôtre, de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Il était ici-bas non pas seulement pour manifester la grâce en lui-même, mais pour communiquer la grâce à d'autres, et cela en abondance, grâce sur grâce. La loi donnée par Moïse était un exacteur, demandant de l'homme ce qu'il devait être en relation avec Dieu et son prochain. La grâce, venue par Jésus-Christ, apporte la bénédiction à l'homme, selon tout ce qu'il est avec tous ses besoins, en même temps qu'elle maintient pleinement la vérité de tout ce que Dieu est dans sa sainteté infinie. La révélation de Dieu. La parole étant devenue chair, Dieu est tout de suite pleinement révélé. Dans les jours de l'Ancien Testament, il y a eu des révélations partielles de Dieu dans ses attributs, comme le Tout-Puissant et l'Éternel. Mais nous n'avons pas de révélation du cœur de Dieu avant la venue de son Fils. Nul homme n'était assez grand pour faire connaître Dieu. Seule une personne divine pouvait révéler une personne divine. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, a révélé le Père tel qu'il le connaissait. Comme quelqu'un l'a exprimé, ce titre ne décrit pas seulement le caractère de sa gloire ici-bas, mais exprime ce qu'il était, ce qu'il avait été, ce qu'il est toujours, dans le sein du Père lui-même, dans la divinité. Et c'est ainsi qu'il l'a fait connaître. Versets 19 à 37. Le triple témoignage de Jean le Baptiseur. Après les versets d'introduction, nous trouvons dans cet évangile un témoignage remarquable de Jean le Baptiseur à Christ en 3 jours successifs. Ce témoignage est suivi par une autre présentation de Christ, faite par lui-même, en 3 jours successifs également. Le témoignage du premier jour, rendu par Jean, est rapporté dans les versets 19 à 28. Celui du deuxième jour est donné dans les versets 29 à 34. Il commence par les mots « le lendemain ». Le témoignage du dernier jour, introduit par les mots « le lendemain encore », se trouve dans les versets 35 à 37. Tel qu'il est présenté dans l'Évangile selon Jean, le témoignage de Jean le Baptiseur offre un contraste frappant avec le rapport qu'en donnent Matthieu et Luc. Dans les premiers évangiles, Jean témoigne en face de pécheurs. Ici, il rend témoignage dans la présence du Fils de Dieu. Quand il se trouve devant les foules, il s'exprime comme un prophète qui sonde la conscience, cherchant à convaincre les hommes de leurs péchés. En présence d'une personne divine, il parle comme un adorateur de celui duquel il n'est pas digne de délier la courroie de la sandale, en des termes pleins de tendresse et d'humilité. Dans le premier cas, la culpabilité de la nation accable son âme. Dans le second, la gloire de Christ absorbe son esprit. Christ est devenu tout en tous pour Jean. Lui-même n'est qu'une voix qui allait bientôt se taire. Le premier jour de son ministère, le grand but de Jean est de se cacher lui-même afin de magnifier Christ. Le second jour, son sujet est la gloire de la personne de Christ et la grandeur de son œuvre en réponse aux besoins du monde. Le dernier jour, il présente la personne de Christ pour la satisfaction du cœur du croyant. Versets 19 à 28. Le témoignage de Jean le Baptiseur au premier jour. Citation de l'Écriture. Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa et ne nia pas et confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » Il dit « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie le prophète ?» Jean leur répondit, disant, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Fin de citation. Si Jean se cache ce jour-là, c'est d'abord afin de présenter Christ comme le nouveau centre de rassemblement pour le peuple. Puis, dans le but de rassembler autour de Christ, il baptise afin de séparer les croyants du système religieux corrompu de l'époque. Enfin, il montre clairement que le Christ autour duquel les croyants se rassemblent est en opprobre dans le monde religieux. Ces vérités sont présentées dans l'entretien entre Jean et les représentants des Juifs. Les sacrificateurs et les Lévites, envoyés de Jérusalem, demandent à Jean « Toi, qui es-tu ? » Le cœur rempli de Christ, Jean répond d'une manière très belle « Je ne suis pas le Christ. » La réponse paraît d'autant plus remarquable que rien n'avait été dit ou demandé concernant Christ. C'est comme si Jean disait « Vous êtes venu à moi, mais je ne suis pas celui dont vous avez besoin. Je ne suis pas le Christ. » En vrai témoin, il présente Christ et se cache lui-même. Plus il est pressé de parler de lui, plus ses réponses se font brèves. Ils disent « Es-tu Élie ?» Il répond « Je ne le suis pas. » Ils demandent « Es-tu le prophète ?» Il répond par un seul mot « Non. » Jean diminue afin que Christ croisse. Ils lui dirent donc « Qui es-tu ?» Jean répond qu'il est seulement une voix. Il n'est pas Élie annoncé par Malachie. Il n'est pas le prophète promis par Moïse. Il est simplement la voix dont avait parlé Ésaïe. Il refuse de prendre une place qui ferait de lui un centre de rassemblement pour le peuple de Dieu. Il refuse de prendre un nom qu'il exalterait parmi le peuple de Dieu. Il n'est qu'une voix pour parler de Jésus dans l'obéissance à la parole de Dieu. De plus, il parle de Jésus dans un monde qui est un désert, où il n'y a rien pour Dieu et au milieu d'un peuple qui ne connaît pas la crainte de Dieu. Si toutefois Jean refuse de devenir un nouveau centre de rassemblement, pourquoi baptise-t-il? Les pharisiens savaient bien que le baptême signifie la mort et par conséquent la séparation, car la mort est le grand séparateur. Si Jean baptisait, cela impliquait la séparation d'avec l'ancien état de choses afin d'avoir part à quelque chose de complètement nouveau. Quel est alors le nouveau centre de rassemblement, demandent les pharisiens, vu que Jean refusait de devenir un conducteur ou un centre? Dans sa réponse, Jean admet qu'il baptise d'eau, reconnaissant que pour se rassembler autour de Christ, il faut se séparer du système religieux corrompu de ce jour-là. En outre, il indique clairement la nécessité de cette séparation. Les Juifs religieux ne connaissaient pas Christ. Il était présent au milieu d'eux, mais comme un inconnu. Il était méconnu non seulement par le monde, mais aussi par les sacrificateurs et les Lévites de Jérusalem. Pourtant, la grandeur de cet homme inconnu est telle que Jean pouvait dire qu'il n'était pas digne de délier la courroie de sa sandale. De plus, il est non seulement inconnu, mais il se trouve aussi à l'extérieur, au-delà du Jourdain. Ainsi, dès le début de cet évangile, Christ est présenté comme étant rejeté par la nation et occupant la place d'opprobre à l'extérieur. Il en est de même aujourd'hui. Au dernier jour du christianisme, Christ est traité par la profession chrétienne de la même manière qu'il l'a été par la masse religieuse dans les derniers jours du judaïsme. Même s'il est très précieux pour le cœur de personnes prises individuellement, il demeure inconnu pour la profession religieuse superficielle. Il est encore aujourd'hui en dehors des systèmes religieux corrompus. Il occupe toujours la place d'opprobre. Cela est certes très attristant. Il n'y a toutefois pas lieu de s'en étonner. Nous sommes en effet prévenus que la dernière phase de la chrétienté trouvera Christ derrière la porte de la profession chrétienne qui s'accommode de tout. Apocalypse 3, verset 20. Versets 29 à 34. Le témoignage de Jean le Baptiseur au deuxième jour. Citation de l'Écriture. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est de celui-ci que moi je disais « Après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. » Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Fin de citation. Le premier jour, Jean prépare le chemin du Seigneur en se cachant lui-même, afin que Christ remplisse tout le champ de vision des hommes. Le deuxième jour, il présente un témoignage plus positif à la gloire de la personne et de l'œuvre de Christ. Il est l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu. Comme agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Comme Fils de Dieu, il baptise du Saint-Esprit. Jean commence son témoignage de ce jour en déclarant « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Deux parties de l'œuvre de Christ sont placées ici devant nous. Premièrement, le règlement de la question du péché par son sacrifice comme l'agneau de Dieu en étant fait péché à la croix. Secondement, l'abolition du principe du péché dans le monde dans un jour à venir. Le titre « agneau » est en vue du sacrifice de la croix. L'agneau de Dieu parle d'un sacrifice auquel Dieu a pourvu, en contraste avec les offrandes apportées par les hommes autrefois. Étant de Dieu, le sacrifice est entièrement agréé par Dieu. Le résultat ultime de ce grand sacrifice sera la suppression absolue de toute trace du péché dans le monde. Les mots « qui ôte le péché du monde » indiquent ce que le Seigneur Jésus fera dans le futur comme résultat de l'œuvre qu'il a accomplie comme l'agneau de Dieu dans le passé. Le péché est l'iniquité, c'est-à-dire l'homme faisant sa propre volonté sans aucune pensée ou crainte à l'égard de Dieu. Toute la misère du monde résulte de l'accomplissement par l'homme de sa propre volonté dans un monde de péché. Le Seigneur ôtera toute trace de péché en assujettissant tout à Dieu. C'est ainsi que le croyant est délivré aujourd'hui de la puissance du péché en étant amené à se soumettre à Dieu. Du fait que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, nous nous tenons pour morts au péché, mais vivant à Dieu dans le Christ Jésus. L'homme dominé par le péché ne pense pas à Dieu. Le croyant a Dieu devant lui. Il cherche à vivre selon la volonté et pour le bon plaisir de Dieu, et ainsi il est délivré de la puissance du péché. Ce qui est vrai du croyant, qui, maintenant, se tient pour mort au péché et vivant à Dieu, sera aussi, dans une mesure, vrai du monde lors du millénium, quand les hommes devront se soumettre à Dieu sous le règne de justice. La réalisation en perfection aura lieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre où la justice demeurera. Dieu habitera alors avec les hommes dans une scène où sa volonté sera accomplie par tous et en tout. Nulle trace de péché ne souillera cette sphère. Dieu sera tout en tous. Enfin sera exaucée la prière « Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. » Puis Jean rend témoignage de la grandeur de celui qui, comme l'agneau de Dieu, accomplira une telle œuvre. Il déclare « C'est de celui-ci que moi je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi car il était avant moi. » Dans le temps, Christ est venu après Jean. Quant à la position, il prend une place de prééminence bien au-dessus de Jean, car il existait dans l'éternité avant lui. Jean prend soin de montrer que la connaissance qu'il avait de la gloire de la personne du Christ était entièrement en dehors de la chair. Elle n'était pas acquise par une connaissance naturelle du Seigneur, du fait de sa relation avec lui par des liens de parenté. À deux reprises, Jean dit « Je ne le connaissais pas ». En outre, il répond à la question des pharisiens « Pourquoi baptises-tu ? » Il explique que, par le baptême, il mettait fin à l'ancien ordre afin de manifester Christ à Israël comme le grand centre du nouvel ordre de bénédiction. Ce n'était pas pour se mettre lui en avant. Il se cachait pour que Christ fût manifesté. De plus, Jean exalte Christ en montrant qu'il a été distingué de tous les autres par le grand fait que l'Esprit descendit du ciel comme une colombe et demeura sur lui. La chose nouvelle n'était pas que l'Esprit descende sur un homme pour un but déterminé, mais qu'il demeure sur lui. Jésus reçoit le Saint-Esprit comme homme en vertu de sa propre perfection et comme étant en relation avec le Père en tant que Fils. Nous sommes scellés, étant fils par la foi en lui, en vertu de la rédemption qu'il a accomplie. L'Esprit vient sur Christ comme une colombe, non pas sous forme de langue de feu comme à la Pentecôte. Le feu parle de mise à l'épreuve et implique le jugement de soi. Si l'Esprit vient sur nous, il éprouve tout ce qui est de la chair et demande que nous le jugions. Cela conduit Jean à parler de la seconde partie de l'œuvre de Christ. Il baptise de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas seulement que, comme agneau de Dieu, il accomplit la rédemption, mais, comme fils de Dieu, il communique le Saint-Esprit afin que les rachetés soient introduits dans la bénédiction de leur place de fils. Jean rend témoignage que celui qui donne le Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Qui, sinon une personne divine, pourrait donner une personne divine? Ces titres conférés par Jean au Seigneur vont bien au-delà de ce que Christ est en relation avec Israël. Comme agneau de Dieu, il fait une œuvre valable pour le monde entier, ayant un effet universel. Comme l'agneau dans l'Apocalypse, il est le centre de tous les rachetés. Le baptême de l'Esprit ne peut dès lors pas être confiné à Israël. La parole dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair » Acte 2, verset 17. Comme fils de Dieu également, Christ a autorité sur les nations. Psaume 2. Versets 35 à 37. Le témoignage de Jean le Baptiseur au troisième jour. Citation de l'Écriture. Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu !» Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Fin de citation. Au premier jour de son ministère, Jean, le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, se met en retrait dans la présence de Jésus. Le deuxième jour, il rend témoignage de la gloire de la personne de Christ et de la grandeur de son œuvre. Enfin, ce troisième jour, le dernier de son ministère, il ne mentionne ni l'œuvre ni le don de Christ, mais parle uniquement de sa personne. Il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Plutôt peut-être qu'un témoignage rendu, nous trouvons ici l'adoration d'un cœur rempli de la beauté de Christ. Car ce que Jean dit de Jésus ce jour-là résulte de la contemplation de Jésus. Cela ne provenait pas de ce qu'il avait lu dans les prophètes à son sujet, ni de ce qu'il avait entendu dire de lui par d'autres, mais de ce qu'il avait regardé. Nous lisons « Jean se tint là, et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Quel bienfait n'éprouverions-nous pas si, au milieu de l'agitation et du tourbillon de la vie, nous nous arrêtions nous aussi un moment pour prendre en quelque sorte le temps de regarder Jésus qui marchait, d'imprégner nos âmes des grâces et des perfections, de la douceur et de la bonté, de la beauté et de l'humilité, de la sainteté et de l'amour qui ont caractérisé Jésus à chaque pas de sa vie, dans ce monde ténébreux de péché et de malédiction. Et alors, les cœurs remplis, nous pourrions attirer l'attention de nos semblables sur la beauté de celui dont, toute la personne est désirable, et dire comme Jean autrefois, « Voilà l'agneau de Dieu ». L'effet d'un tel ministère est manifesté dans les deux disciples qui entendirent parler Jean. Ils entendirent Jean, mais ils suivirent Jésus. Apparemment, ils avaient écouté les paroles de Jean les jours précédents sans être touchés. Mais le ministère du troisième jour, qui jaillissait d'un cœur rempli de Christ, atteignit les cœurs qui avaient besoin de lui. Regarder Jésus qui marchait doit avoir pour effet de nous amener à réaliser qu'il nous aime. Et son amour, suscitant le nôtre, nous attire à lui d'une telle manière que nous le suivons et devenons des disciples de Christ. Ne nous contentons-nous pas, souvent, de savoir que nous sommes abrités par l'œuvre de Christ et scellés de l'Esprit, sans suivre Christ avec détermination? Suivre Christ signifie davantage que croire en Christ. La foi est certainement comprise, car un disciple doit être un croyant. Et néanmoins, un croyant n'est pas toujours un disciple. Suivre Christ implique qu'il est devenu le grand objet de notre âme, celui qui dirige et contrôle la vie. L'absence d'une marche décidée à sa suite n'est-elle pas le secret du peu de progrès que nous faisons dans notre histoire spirituelle? Et ce défaut ne fait-il pas la différence entre la consécration et la tiédeur? Du verset 38 au verset 11 du chapitre 2, le triple ministère de Christ. Christ est le thème de tout véritable ministère. Le but de celui-ci est atteint quand il attache fermement au Seigneur ceux qui l'entendent. Ainsi, le propos du ministère de Jean est accompli lorsque les deux disciples sont attirés vers Christ par une affection si réelle qu'ils se trouvent contraints de le suivre. La fin du témoignage de Jean marque le début du ministère de Christ. Ce qui était vrai historiquement, à ce moment, le demeure dans l'histoire spirituelle du croyant. Si, par le ministère d'un serviteur du Seigneur, nous sommes attirés à Christ, c'est afin que nous soyons mis au bénéfice de son propre service d'amour, plein de grâce. Comme pour Jean, le ministère du Seigneur est présenté en trois jours successifs. Le ministère du premier jour est placé devant nous dans les versets 38 à 43. Celui du deuxième jour commence par les mots « le lendemain » au verset 44 et va jusqu'à la fin du chapitre. Le ministère du troisième jour est rapporté dans les 11 premiers versets du chapitre 2 et est introduit par les mots « et le troisième jour ». Versets 38 à 43, le premier jour du ministère de Christ. Citation de l'Écriture. Et Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? » Et ils lui dirent « Rabbi », ce qui est interprété signifie « maître ». « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient ouï parler de lui à Jean et qui l'avaient suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui interprété est Christ. Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », qui est interprété Pierre. Fin de citation. D'une manière très bénie, le ministère du premier jour présente, en image, le service de Christ pour rassembler les siens autour de lui pendant la période chrétienne. Qu'une personne vivante soit le centre de rassemblement pour le peuple de Dieu était quelque chose de complètement nouveau sur la terre. Pour apprécier un tel service d'amour, nous devons nous souvenir que la personne glorieuse qui a captivé les affections des deux disciples, le Christ qu'ils suivent, est quelqu'un d'inconnu pour le monde, de rejeté par la chair religieuse, et qui a sa place à l'extérieur. Versets 10, 11, 26 et 28. Jusque-là, Jérusalem, avec son temple, avait été le centre de l'activité religieuse pour le peuple professant de Dieu. Dans le judaïsme, le centre de ralliement était un lieu. Dans le christianisme, le centre de rassemblement est une personne. Et cette personne est un homme rejeté dans la place d'opprobre. Si nous voulons être avec lui, nous devons, comme les deux disciples, être prêts à sortir vers lui hors du camp, portant son opprobre. Hébreux 13, verset 13. Hélas, la chrétienté professante est largement retournée au système judaïque et a érigé à nouveau de magnifiques édifices comme centre de vie religieuse. De plus, ignorant le rejet de Christ, la chrétienté a cherché, pour ainsi dire, à ramener Christ dans le monde, plutôt que de laisser le monde venir à Christ. Les hommes ont cherché à se couvrir d'honneur en attachant le nom béni du Seigneur à leur système, leurs arrangements et leur pays. Pourtant, Christ est en dehors de tout le système de ce monde et de sa religion, et ceux qui sont personnellement attachés à lui par l'affection de leur cœur doivent accepter la place d'opprobre à l'extérieur s'ils veulent posséder Christ comme leur ressource toute suffisante. Ainsi, cette belle scène au-delà du Jourdain présente une magnifique image de ce qu'est le christianisme selon Dieu. Une compagnie de croyants tirés du judaïsme et du monde, qu'ils soient social, politique ou religieux, pour se rassembler autour d'une personne qui devient tout pour eux. Ce n'est pas seulement que les siens sont réunis parce qu'ils ont un intérêt commun dans son œuvre, ils sont rassemblés autour d'une personne vivante qui exerce une puissance d'attraction sur leur cœur. Ayant été placés sous l'efficacité de l'œuvre de Christ et ayant reçu le don de l'Esprit, leur avenir étant assuré, ils peuvent bien se demander « Comment allons-nous être gardés au milieu des épreuves et des tentations de ce monde tandis que nous cheminons vers le ciel ?» Il n'y a qu'une seule réponse. Nous ne pouvons être gardés qu'en nous attachant à une personne divine qui est tout amour dans son cœur, toute puissance dans sa main et toute sagesse envers les siens. Le Christ vivant est la solution à toutes nos difficultés. Nous ne trouverons notre chemin au travers de ce monde ténébreux qu'en le suivant et en demeurant avec lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aussi lisons-nous au sujet de ces deux disciples, ils suivirent Jésus et ils demeurèrent auprès de lui. Versets 37 et 40. Plus tard, le Seigneur donnera un sens spirituel à ces paroles quand il dira à ses disciples « Demeurez en moi ». Et dans les mots que nous trouvons à la fin de l'Évangile, « Toi, suis-moi ». Chapitre 15, verset 4 et chapitre 21, verset 22. Ils avaient entendu parler de Christ. Ils avaient regardé Christ marcher, ils avaient été attirés à Christ et ils suivaient Christ. Maintenant, nous découvrons le profond intérêt que le Seigneur porte à ses disciples qui le suivent. Nous lisons « Jésus se retournant et voyant qu'il le suivait ». Aujourd'hui comme alors, il prend note de ceux qui le suivent. Puis le Seigneur met ses deux disciples à l'épreuve en leur demandant « Que cherchez-vous ? » Si, comme les disciples, nous avons pris une place en dehors des systèmes religieux du monde d'aujourd'hui, nous serons défiés et mis à l'épreuve quant à nos motifs de la même manière qu'eux. Les difficultés qui surgissent parmi les saints ne sont-elles pas souvent permises pour nous éprouver et susciter la question « Pourquoi nous trouvons-nous là où nous sommes ? » Avons-nous pris cette place uniquement pour échapper aux maux du monde religieux, ou pour acquérir de la lumière et un meilleur enseignement ? Ou parce que nos parents ont marché dans ce chemin avant nous? Si tel est le cas, nous serons certainement mis à l'épreuve quant à nos motifs, de peur qu'ayant agi selon quelques mobiles faux ou mélangés, nous ne nous lassions sur le chemin et n'abandonnions la place de l'opprobre. Dans le cas des deux disciples, la question du Seigneur manifeste le vrai motif, comme le montre leur demande « Rabbi, où demeures-tu ?» Il apparaît clairement qu'ils prenaient la place en dehors, non pas simplement pour échapper aux corruptions du judaïsme, ni pour en retirer quelque profit pour eux-mêmes, mais parce qu'ils désiraient être avec celui à qui ils s'étaient attachés, conduits par leurs affections. Il était lui le motif, non pas eux. Ils voulaient connaître celui auquel ils avaient été attirés, aussi disent-ils « Où demeures-tu ? » Une rencontre fortuite ou un entretien occasionnel ne nous permettent pas de connaître véritablement nos semblables. Pour cela, nous devons séjourner avec eux dans leur maison. Si nous voulons connaître mieux Christ, nous devons chercher à le connaître dans sa maison, la maison du Père. Aussi lisons-nous « Cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Et où aurons-nous un sentiment plus profond des choses qui sont en haut que lorsque nous sommes réunis avec les deux ou trois en son nom, lui-même étant au milieu de nous ? Le Seigneur se plaît à répondre à de tels désirs. Comme il a été dit, nous pouvons avoir autant de Christ que nous le souhaitons. Le Seigneur répond aussitôt à ses disciples, « Venez et voyez. » Et nous lisons, « Ils allèrent donc et virent où ils demeuraient. » Dans ce monde, nous ne trouvons rien qui parle de Christ. Et nous pouvons être assurés que, quel que soit l'état de nos maisons, dans la sienne, il ne se trouvait rien qui distrait de lui. Après avoir vu où il demeurait, ils vinrent pour le connaître dans sa propre maison et, le connaissant, ils éprouvèrent de la joie à demeurer auprès de lui ce jour-là. Celui qui les avait attirés dans la place en dehors était celui qui les gardait là. Les versets 41 à 43 nous montrent ce que produit normalement le fait de demeurer avec Christ, le désir d'amener d'autres personnes à Christ. Ainsi, nous lisons qu'un homme quitte cette place sanctifiée et trouve son propre frère Simon. L'ayant trouvé, il le mena à Jésus. Il ne l'amène pas seulement à une place à l'extérieur, ni à une compagnie dans la place à l'extérieur, mais il le conduit à une personne, à Jésus. Et combien l'accueil reçu par Simon est beau. Il se trouve dans la présence de quelqu'un qui connaît son nom et celui de son père et qui lui donne un nouveau nom. En déclarant à Simon son nom et le nom de son père, le Seigneur lui fait comprendre qu'il se trouve devant celui qui sait toute son histoire dès le moment de sa naissance. En changeant le nom de Simon, Christ le revendique pour lui-même, car le droit de changer un nom implique la propriété et l'autorité. Ainsi, au début de son histoire spirituelle, Pierre apprend que le Seigneur connaît son histoire entière de pécheur et que, néanmoins, il le réclame comme lui appartenant pour toujours. Le chemin de ses disciples en relation avec Christ le premier jour de son ministère est ainsi de toute beauté et riche en instructions pour nous. Nous voyons ces hommes regarder Jésus qui marchait, entendre parler de Jésus par quelqu'un, suivre Jésus dans la place en dehors, voir où Jésus demeurait, demeurer avec Jésus, en trouver d'autres pour Jésus et les amener à Jésus. Versets 44 à 52, le deuxième jour du ministère de Christ. Citation de l'Écriture. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus le fils de Joseph qui est de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir à lui. Et il dit de lui, « Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus répondit et lui dit, « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Fin de citation. Le tableau change ici, et Christ est vu comme le centre de rassemblement de ses saints terrestres, le résidu juif. Avant, il avait été présenté comme le centre de rassemblement de ses saints célestes, l'Église. Ce jour-là, il n'est pas question de savoir où demeure Christ. C'est la portion des saints célestes. La veille, deux disciples ont quitté le monde pour s'attacher à Christ et demeurer auprès de lui dans sa maison. Ce deuxième jour, Christ sort dans le monde et attire deux saints à lui afin qu'ils règnent avec lui dans son royaume. Cela s'accorde avec tout ce qui est écrit dans Moïse et les prophètes, qui ne disent rien des gloires célestes du Seigneur, mais mentionnent souvent son règne terrestre. Parlant du futur roi, Philippe rend témoignage qu'il est bien, sur le plan légal, le fils de Joseph et, par conséquent, héritier du trône. Nathanaël manifeste d'abord l'incrédulité caractéristique juive. En effet, il dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» En outre, il représente le résidu pieux juif qui sera tiré de la nation incrédule après l'enlèvement de l'Église et en qui sera opérée la repentance pour avoir, comme nation, rejeté Christ. Le Seigneur reconnaît Nathanaël comme quelqu'un en qui il n'y avait pas de fraude. N'avait-il pas vu cet Israélite avec tous ses exercices sous le figuier ? Sans doute y avait-il été pour confesser ses péchés, parce qu'une âme ne peut être délivrée de la fraude que par la confession à Dieu. La fraude étant enlevée de son âme, Nathanaël voit toute chose clairement et confesse Christ comme le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Il s'agit là des deux titres sous lesquels, selon le psaume 2, la nation juive a rejeté Christ. Dans le palais du souverain sacrificateur, la nation a nié que Christ était le Fils de Dieu. Devant Pilate, elle a rejeté son droit à être le roi d'Israël. Le Seigneur reconnaît la foi de Nathanaël, produite par ses propres paroles. Nathanaël a confessé Christ selon le psaume 2, et maintenant le Seigneur lui annonce une autre gloire comme fils de l'homme selon le psaume 8. Comme fils de l'homme, il sera établi sur toutes les œuvres des mains de Dieu, toute chose étant mise sous ses pieds. Si la terre en bas lui sera assujettie, les cieux en haut seront ouverts sur lui, et les anges, trouvant en Christ sur la terre le glorieux objet de leur service, établiront des relations entre le ciel et la terre. Chapitre 2, versets 1 à 11, le troisième jour du ministère de Christ. Les premiers mots de ce chapitre relient clairement la noce à Cana avec le chapitre précédent. La noce a lieu le troisième jour. Si le premier jour présente en image le rassemblement des croyants autour du Seigneur pendant la période de l'Église, et le deuxième jour, le rassemblement du résidu pieux des Juifs autour de lui après l'enlèvement de l'Église au ciel, ne pouvons-nous pas conclure à juste titre que le troisième jour parle de la restauration d'Israël pendant le millénium ? Toute la scène est caractérisée comme étant un signe. Note du verset 11 du chapitre 2. Or, un signe est un fait naturel ou matériel doté d'une signification spirituelle. Dans son sens typique, la scène de la noce peut bien illustrer la reprise des relations entre l'Éternel et Israël. Osée présente l'Éternel disant d'Israël dans l'avenir « Je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice et en jugement et en bonté et en miséricorde, et je te fiancerai à moi en vérité. » Osée 2, versets 19 et 20. D'une manière très significative, Osée ajoute « Dans deux jours, il nous fera vivre, au troisième jour, il nous mettra debout. » Osée 6, verset 2. On peut y voir la repentance de la nation conduisant à sa restauration en justice. Celle-ci sera le résultat d'une purification morale amenée par la repentance, présentée en image par le remplissage des vases de pierre vides qui se trouvaient là pour la purification. Puis, lorsque la sainteté sera satisfaite, le vin de la joie coulera pour Israël.